Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais vous entretenir de la crise au Congo. Donc, le Congo, un pays d'Afrique centrale. Donc, le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui, anciennement appelé le Zaïre, qui est un pays de l'Afrique centrale qui donc vit une crise énorme depuis une dizaine d'années. Et Aziz va essayer donc de vous transcrire cela en anglais.
So people will be presenting on the Democratic Republic of Congo, which was formerly known as Zaire, and has been experiencing a conflict of tremendous proportions for the last 10 years.
D'accord. Alors avant de commencer, j'ai une question pour l'assistance. J'aimerais savoir quelles sont les personnes qui connaissent, qui ont entendu parler de la crise au Congo.
How many of you have heard of the crisis in the Congo?
D'accord. Alors, de toutes ces personnes, quelles sont les personnes qui ont entendu parler des 3 millions de morts ces 3 dernières années seulement? Plus de 3 millions de morts au Congo.
And how many of you heard that, in fact, 3 million people have been killed in this conflict in the last 3 years?
Voilà. Donc, vous remarquez vous-même que c'est un conflit qui est médiatisé, mais dans un cadre tout à fait précis où on parle des richesses de ce pays, on parle de certaines réalités congolaises, certes, ou de la région, mais on n'aborde pas le drame humain, la situation de cette population congolaise qui meurt à cause de la guerre ou des conséquences directes de ce conflit.
So as you can see, the media angle on this conflict is one that emphasizes issues of resources and other dimensions, but minimizes the human dimension.
Alors, rapidement, je vais faire une intervention en 5 minutes. Je vais essayer de tenir sur ce laps de temps en 3 parties sur l'historique du conflit, la situation actuelle et les perspectives.
So, Biko will look at the history of the conflict, the current situation and possibilities for the future.
Alors, pour l'historique du conflit, moi, je vais mettre l'accent sur un point important. Le Congo, donc la lecture des événements serait de dire que le Congo a une vocation pour les puissances capitalistes et les multinationales qui ont toujours eu un intérêt pour ce pays, une vocation d'être une sorte de grenier. Un grenier où on vient puiser les richesses et on s'en va après. Donc c'est la même situation qui perdure depuis l'existence donc, de ce territoire comme entité, c'est-à-dire donc, depuis plus de 2 siècles, 3 siècles, où on a vu donc, auparavant l'État indépendant du Congo, propriété du roi de Belge, Léopold II.
Okay, so historically speaking, the Congo has always been a source of wealth for capitalist forces and for imperialist countries. This dates back 300 years, certainly as the personal fiefdom of King Leopold II, Belgian King Leopold II, when it was known as the Congo, and then known as the Congo Free State.
Puis ensuite, c'était devenu une colonie belge, toujours dans propriété, donc cette fois-ci du gouvernement belge. Puis après, on a eu l'indépendance du Congo, où le pays a été dirigé durant une trentaine d'années par Mobutu, qui a servi aussi la cause des multinationales et des puissances capitalistes pour donc servir d'intermédiaire entre ces puissances et le territoire congolais pour pouvoir l'exploiter à leur guise.
So they, when the territory was taken away from King Leopold II, it became officially a Belgian colony. And then when it emerged into its independence years, it was ruled by Mobutu for 30 years. And he became very much an intermediary for Western powers to continue to extract wealth from the country.
Donc, pour la période historique, je vous demanderai par exemple de vous référer à un ouvrage intéressant, celui d'Adam Hochschild,
yes,
Le fantôme du roi Léopold.
Okay, I'm sure many of you have heard of King Leopold's Ghost by Adam Hochschild, which is a book about the Belgian Congo under King Leopold.
D'accord. Donc, dans les années 60, ce pays essaye de prendre en main sa destinée avec Lumumba. Je crois que vous avez tous suivi le film sorti il y a 2 ans donc, de Raoul Peck, Lumumba. Donc, ce personnage est un nationaliste qui a décidé, donc, avec d'autres personnes dans les années 60, de prendre en main la destinée de ce pays. Il a été assassiné. Vous avez tous entendu parler de ce cas. Et ensuite, le pays a été pris entre les mains donc, d'un groupe de personnes autour de Mobutu qui ont décidé, donc, eux, par contre, de donner ce pays aux mains des puissances capitalistes pour qu'ils puissent l'exploiter à leur guise et poursuivre, en fait, le travail qui a été celui de Léopold II, qui a donc servi, en fait, juste de gérant du Congo au service des multinationales. Vous pourrez le comprendre dans les recherches que vous pourrez faire, notamment en lisant ce livre.
So at independence, Congo was led by a nationalist leader, Patrice Lumumba. Probably many of you have seen the film about Lumumba. But he was assassinated very early on, and Mobutu took power and simply managed the territory as again a source of resources for Western powers.
Il faut bien comprendre que dans les années 60, la volonté des puissances occidentales était de balkaniser le Congo, d'en faire donc plusieurs petits états pour pouvoir mieux l'exploiter. Ensuite, il y a eu l'épisode Mobutu. L'épisode Mobutu, c'était donc à cause du conflit de la guerre froide. Il était dangereux de pouvoir prétendre donc exploiter tous ces multiples territoires. Alors on a trouvé une personne forte avec une forte poigne qui va essayer donc de tenir ce pays, ce grand territoire, pour le service du système capitaliste. Et donc, à la fin de la guerre froide, l'utilité de Mobutu n'étant plus là, on revient à la même intention des années 60, c'est-à-dire balkaniser le Congo, d'où l'origine de ce conflit actuel. Donc, la parenthèse a été de 30 ans avec Mobutu, tenir le Congo durant la guerre froide pour les intérêts capitalistes. Puis ensuite, aujourd'hui, dans les années 90, étant donné que la guerre froide se terminait, on revient à la même logique du départ, c'est-à-dire balkaniser ce pays, en faire de multiples petits territoires entre les mains des multinationales.
So during the colonial period, one of the strategies used by the colonialists was to divide up Africa into small, manageable parcels. Under Mobutu, his reign coincided with the Cold War, and it was very much a different logic of Mobutu, who ruled very much with an iron fist, to keep the whole territory together, which made it easier to exploit and made it also a base of anti-communist activities. But with the end of the Cold War and the removal and death of Mobutu, there's been very much a return to this logic of parceling up the country into smaller parts to compete.
Or, exactement comme dans les années 60, donc la volonté de casser la dynamique nationale qui voudrait prendre en main la destinée du Congo, dans les années 90, vers la chute donc, du régime Mobutu, il y a eu cette même dynamique nationale qui voudrait reprendre en main la destinée de leur pays, donc les Congolais qui veulent enfin prendre en main la destinée du Congo. Eh bien, elle a été cassée avec ce conflit, avec l'arrivée de Kabila père, qui est mort donc, l'année dernière, une personne qui est plus homme d'affaires que véritable homme d'État, mais qui donc est arrivé au pouvoir, encore une fois, au service des multinationales. Mais en arrière-pensée, cet homme-là a quand même eu un passé nationaliste autour de Lumumba, etc. Donc c'est une personne qui a essayé en fait de jongler avec ces nouvelles réalités en se disant « je vais arriver au pouvoir avec les multinationales et puis après je vais essayer de jongler pour pouvoir me débarrasser d'eux ». Or on a vu les conséquences, il est mort. Et là donc ce qui se passe, c'est que le pays... Excuse-moi.
So with the removal of Mobutu, there was a resurgence in an attempt, as Lumumba had done 30 years earlier, to take control of the country and to use the country's resources for the benefit of the people. Mobutu was replaced by Kabila, who has a little bit of a checkered side to him. He was a Lumumbist, but he became a businessman and sort of has two sides to him. So he came to power very much backed by multinationals. But he claimed that once he got control of the country, he would turn things around to the benefit of the people. And he was ultimately assassinated last year.
Alors justement, pour pouvoir maintenir donc, le Congo sous la mainmise des multinationales, il y a cette occupation illégale du territoire congolais par des pays voisins, des pays frères, donc notamment le Rwanda, l'Ouganda principalement et dans une certaine mesure le Burundi, qui sont des pays qui servent en fait de mercenaires locaux pour les puissances internationales, pour les multinationales, qui sont soutenus militairement, financièrement et qui ont comme vocation de pouvoir maintenir le Congo sous la coupe de ces multinationales. Donc vous allez voir que ce pays, donc le Congo, est envahi par les troupes de ces autres pays, soutenus par les États-Unis notamment, par les multinationales. Et toutes les semaines, vous verrez qu'il y a des multinationales qui y vont, notamment canadiennes, américaines, pour exploiter, pour extraire des minerais, parce que ce pays est extrêmement riche. Et donc, c'est une situation vraiment où le droit international n'est pas respecté, les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées, mais encore une fois, on l'a vu encore avec la liste Israël et la Palestine, etc. Donc, on voit comment les résolutions de l'ONU sont bafouées à partir du moment où les intérêts occidentaux sont en jeu. C'est le même cas au Congo, où des résolutions de l'ONU ne sont pas respectées, qui reconnaissent la violation de ces territoires par le Rwanda, par l'Ouganda, par le Burundi, et qui ne sont pas des pays, ce sont des petits pays par rapport à ce grand Congo, mais par contre, ce sont des pays qui sont soutenus militairement et financièrement par les grandes puissances pour exploiter, pour pouvoir contrôler ce pays, car il ne faut rien laisser entre les mains des Congolais.
So, to summarize, the country has since been invaded, portions of the country have since been invaded primarily by Rwanda and Uganda and as well by Burundi. These are all small neighboring countries, but they've clearly been backed by the United States, by multinational corporations, again very much with the intention of getting access to the Congo's resources. There have been a series of UN resolutions put in place to try to have these countries withdraw from the Congo. But the resolutions have been completely violated and ignored.
Et pour finir, je vais vous donner donc les exemples de grandes richesses qui se retrouvent dans ce pays et qui servent en fait, qui sont le vrai motif de ces multiples guerres et crises au Congo. Dans les années, donc, durant l'époque de l'État indépendant du Congo, on a eu l'ivoire et le caoutchouc qui ont servi pour les multinationales. Ensuite, on a eu l'uranium, notamment l'uranium qui a servi pour la bombe atomique d'Hiroshima, vient du Congo, du Katanga. On a eu aussi, donc, durant le règne de Mobutu, l'exploitation du diamant et d'autres minerais de ce territoire. Et aujourd'hui, on a cette situation avec ces minerais qui servent pour l'aérospatial et pour les hautes technologies. Ce sont des minerais comme le coltan, le niobium, et qui servent notamment pour faire ce joli gadget qui est le cellulaire. Donc, tous vos cellulaires, vous savez qu'on est en train de tuer actuellement des gens pour pouvoir donc extraire ces minerais, notamment au Congo, pas seulement au Congo, mais en partie dans ce pays.
Biko is just going through sort of the history of the key resources that have played such a role in Congolese history. In the colonial period, it was ivory and rubber. Then it was uranium, and it was in fact uranium from the Congo that was used in the bomb that was dropped on Hiroshima. Under Mobutu, it was primarily diamonds. And today, the key resource that's clearly fueling a large part of this conflict is coltan, which is a key ingredient in a lot of today's technology, not the least of which is cell phones. So it's the Democratic Republic of Congo has one of the largest reserves of this particular material. So coltan has really very much been a key aspect of this conflict.
Et pour conclure, les perspectives, ce qui se passe maintenant, c'est étant donné la volonté de la population congolaise de ne pas se laisser faire cette balkanisation, on est en train de préparer une élite congolaise qui va perpétuer en fait la domination de multinationales et des grandes puissances dans ce pays à travers le maintien plus ou moins de ce territoire, mais au service encore une fois des puissances étrangères et les populations locales congolaises ne profiteront en fait que des miettes.
So to prevent the Democratic Republic of Congo from completely fragmenting into several small pieces, there's a move now to create a local elite that will create a central government that can keep control over the territory, but again, not in a nationalist perspective, but very much one in which the resources will continue to flow out of the country.
Donc, je suis prêt à répondre à des questions après, si vous le souhaitez. Merci.